Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le monde aujourd'hui, chez Ruben Orsil à Washington. Bienvenue à l'écoute de VOA Afrique. Les grands points de l'actualité en Côte d'Ivoire, ouverture à Abidjan du procès de Simone Gbagbo, ancienne première dame accusée d'atteinte à la sûreté de l'État.
Moi je suis fortement inquiet pour les droits de la défense et l'équité de ce procès.
On écoutera un avocat de Madame Gbagbo. Au Gabon, le gouvernement reporte à la semaine prochaine la plénière tant attendue par le secteur syndical. Réaction ?
Nous, ça nous dérange un petit peu parce que nous voulions que lors de cette plénière-là, le gouvernement nous donne des réponses précises aux questions posées.
Malgré les attaques répétées d'Al-Shabaab, le groupe radical somalien aura eu une année difficile. Mais peut-on dire qu'Al-Shabaab est affaibli ?
La question, malgré tout, n'est pas du tout réglée. Dans la mesure où les affrontements se poursuivent d'un point de vue purement militaire.
On écoutera l'analyse de Roland Marshall et on parlera aussi des cérémonies commémoratives du 10e anniversaire du tsunami qui a frappé 14 pays de l'océan Indien, faisant plus de 220 000 morts. Et comme d'habitude, notre page économique, les sports et la musique, mais d'abord le journal. Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, est réapparue en public pour la première fois après 3 ans de résidence surveillée à Odienné, dans le nord du pays. Madame Gbagbo est jugée pour atteinte à la sûreté de l'État, en même temps que 82 dignitaires de l'ancien régime. La première session de la cour d'assises d'Abidjan a cependant reporté l'audience au lundi 29 décembre, après la formalité d'usage et l'installation des jurés. D'Abidjan, reportage Germaine Dry.
Il est 10h50 quand Madame Simone Gbagbo entre dans le hall du palais de justice et la température monte d'un cran.
Vous avez tenu l'année en prison pendant 3 ans sans jugement. Vous êtes là, vous parlez au dehors, on bulle tout et puis on s'assoit. Il n'y a pas de justice à Côte d'Ivoire.
Vous envoyez maintenant les preuves, il n'y a pas preuve.
Il n'y a pas preuve. Ils n'ont pas preuve. Ils vont aller prendre les preuves bizarres en même temps. Qu'on fait à la maca. Même pas que vous parlez de même un morceau de choses.
Moi, je parle de Moi, c'est ma manière de voir les choses.
30 minutes plus tard, la cérémonie d'ouverture commence par la présentation du collège des magistrats chargés de conduire la cour et l'installation des jurés composés de femmes et d'hommes, tous des civils. Ces procédures terminées, Tambélé Tahirou, président de cette première session, a mis fin à l'audience et pris rendez-vous pour le lundi 29 décembre. À l'issue de cette audience, Maître Dagué Rodrigue, avocat de Mme Simone Gbagbo, a indiqué son inquiétude quant au bon déroulement de ce procès.
Je n'apprécie pas le déroulement du début des assises. La cour d'assises, je pense qu'elle est irrégulièrement constituée. Ça, c'est la première chose. De deux, cette cour d'assises, pour moi, ne respecte pas les droits de la défense. Et nous demandons le respect du test. Et la cour d'assises estime qu'elle n'a pas à nous donner la parole. Moi, je suis fortement inquiet pour les droits de la défense et l'équité de ce procès.
Germaine Dry, Abidjan, la voix de l'Amérique.
Sachez aussi que la justice ivoirienne a reporté au 29 décembre son verdict sur la validité de la candidature de l'ex-président Laurent Gbagbo à la tête de son parti en crise. C'est ce qu'indique l'AFP citant une source proche du dossier. En République démocratique du Congo, 6 personnes ont été tuées et 5 autres blessées par de présumés rebelles ougandais dans une localité du nord-est. C'est ce qu'a indiqué la mission de l'ONU. L'attaque a été perpétrée dans la nuit du 25 décembre dans le village de Ndalia, situé à 15 km au nord de Erengeti, selon le porte-parole de la MONUSCO cité par l'AFP. En Somalie, la force de l'Union africaine dit avoir tué les 3 derniers des 8 militants d'Al-Shabaab qui ont attaqué la base de l'AMISOM à Mogadiscio. Cela porte le bilan à 14 morts, dont 5 soldats de l'UA et un contractuel étranger. Une enquête est en cours pour déterminer comment les Shabaab ont pu pénétrer dans cette base très sécurisée, près de l'aéroport de la capitale somalienne, a déclaré à la Voix de l'Amérique un porte-parole de l'AMISOM. Au Gabon, la plénière tant espérée par les organisations syndicales afin de trouver une issue à la crise sociale n'a pas eu lieu aujourd'hui. Selon un leader syndical joint à Libreville, le gouvernement a proposé le report de la rencontre à la semaine prochaine pour des raisons techniques. On écoute les explications de Fridolin Mvemessa, président de l'Union des syndicats du secteur public.
Malheureusement, nous sommes déçus de ne pas avoir obtenu cette plénière que nous attendions de pied ferme parce que le Premier ministre qui s'est déporté sur les lieux nous a fait constater que toutes les commissions n'avaient pas encore bouclé leurs travaux, notamment la commission secteur public qui avait à finaliser son travail. Et il a jugé utile de renvoyer à mardi au plus tard la tenue de la plénière de la commission ad hoc. Bon, nous, ça nous dérange un petit peu parce que nous voulions que, lors de cette plénière-là, le gouvernement nous donne des réponses précises aux questions posées.
Pouvez-vous nous donner une mise à jour sur l'état des grèves dans le pays?
Tous les secteurs sont en ébullition. Le secteur pétrolier en grève, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur des BTP, l'énergie financière. Il faut dire que tous les secteurs du pays connaissent des mouvements ou sortent à peine des mouvements de grève. Donc le pays, dans son ensemble, se trouve dans un état de contestation permanente.
Fridolin Vemessa dirige l'Union des syndicats du secteur public au Gabon. Toujours au Gabon, l'AFP rapporte une manifestation pacifique organisée ce matin par une centaine de militants proches du pouvoir, accusant des médias français d'attiser la haine dans leur pays. Selon l'agence, la cible principale des protestataires serait France 24, qui est accusée de relayer la propagande de l'opposition après la manifestation violente du week-end. Le porte-parole de la présidence gabonaise s'en était déjà pris à la chaîne d'information lors d'une conférence de presse hier jeudi. Nouveau bilan de l'OMS sur l'épidémie d'Ebola, au moins 7708 personnes dans le monde entier, dont 7693 en Afrique de l'Ouest, sont mortes de la maladie. En tout, 19695 cas ont été enregistrés en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, les trois pays les plus touchés par Ebola. La plupart des cas ont été dénombrés en Sierra Leone, soit 9203, et 2655 morts à la date du 24 décembre. Exodus, Gods and Kings, un film du réalisateur britannique Ridley Scott, n'a pas bon accueil dans le monde musulman. Il remettrait en question un miracle reconnu par les trois monothéismes, celui de la traversée de la mer Rouge par Moïse. Également, selon le ministre égyptien de la Culture, il falsifie l'histoire en présentant Moïse et les Juifs comme les bâtisseurs des pyramides. L'interdiction en Égypte intervient un jour après que le film a été déprogrammé à la dernière minute au Maroc.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, un groupe de suivi du conflit en Syrie rapporte que les frappes aériennes du gouvernement ont tué au moins 37 civils dans une zone contrôlée par les combattants d'État islamique. Nathalie Barge.
L'Observatoire syrien pour les droits de l'homme affirme que 7 enfants et 2 femmes sont parmi les personnes tuées dans l'attaque contre Al-Bab et la ville voisine de Kabassen. Le groupe basé à Londres avait établi un premier bilan de 21 morts dans les frappes aériennes de jeudi. La zone au nord-est d'Alep, qui est contrôlée par le groupe extrémiste État islamique, a été la cible de bombardements répétés de l'armée syrienne. Une campagne de frappes aériennes menée par les États-Unis tente également de chasser les rebelles de leur bastion dans le nord-est de la Syrie et le nord de l'Irak. En début de semaine, les militants d'État islamique ont capturé un pilote jordanien de la coalition dont l'avion de chasse s'est écrasé près de la ville syrienne de Raqqa. Les militaires américains et jordaniens ont confirmé que l'appareil s'est écrasé, mais contestent la déclaration des militants disant l'avoir abattu.
Échange de prisonniers aujourd'hui entre l'armée ukrainienne et les rebelles pro-russes. Plus de 220 combattants séparatistes et 150 soldats ukrainiens capturés ces 8 derniers mois dans l'est de l'Ukraine sont concernés par l'opération. Les représentants des deux camps s'étaient rencontrés mercredi à Minsk sous la médiation de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et de la Russie pour étudier la consolidation du protocole de paix de septembre. Toutefois, les pourparlers ont été ajournés sine die. La Russie a adopté une nouvelle version de sa doctrine militaire, qualifiant l'OTAN et les États-Unis de menaces majeures à sa sécurité nationale. Le président Vladimir Poutine a approuvé le document ce vendredi. Réagissant à cette annonce, un responsable de l'Alliance Atlantique a déclaré que l'OTAN ne pose aucune menace, ni pour la Russie, ni pour toute autre nation. Toute mesure prise pour la sécurité des États membres est de nature purement défensive, a-t-il ajouté. Dans le nord de l'Inde, des centaines de manifestants ont protesté ce vendredi contre les attaques coordonnées de militants tribaux, attaques qui ont fait au moins 76 morts. Ils accusent le gouvernement de l'État d'Assam de ne pas sécuriser suffisamment la population. Les autorités rejettent la responsabilité de ces attaques sur le Front démocratique national du Bodoland, classé par New Delhi parmi les organisations terroristes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On va parler d'économie en Afrique et ailleurs avec Camille Grosdidier. C'est la Minute Éco. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Bonne nouvelle pour l'Afrique de l'Est tout d'abord, n'est-ce pas?
Oui, en effet, selon l'agence Reuters, Bruxelles a décidé de réaccorder aux exportations agricoles est-africaines l'exonération de droits d'entrée sur son marché. Outre le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi vont bénéficier de cet accord. Pour le Kenya, dont l'agriculture compte pour 25% du PIB, c'est une nouvelle excellente puisque l'Union européenne, qui absorbe annuellement pour 2,2 milliards de dollars de ses exportations horticoles, constitue son premier partenaire commercial.
Et puis le Burkina Faso a lancé une émission de bons du Trésor, n'est-ce pas?
En effet, la valeur de cette émission de bons du Trésor est chiffrée à 30 milliards de francs CFA, selon l'agence APA News, qui cite le ministère burkinabé de l'économie et des finances. Et puis, selon la même source, cet appel d'offres pour la cession de bons du Trésor a une valeur nominale de 10 000 francs CFA sur une durée de 5 ans, soit de décembre 2014 à décembre 2019.
Un forum économique est prévu en 2015 au Gabon?
Oui, Libreville, la capitale du Gabon, va accueillir du 29 au 31 mai plus de 1500 leaders du monde économique et politique. Et cela sera pour la quatrième édition du New York Forum Africa, l'unique forum économique panafricain prévu en Afrique en 2015.
Parlons maintenant de la stabilité de la monnaie nigériane. Qu'en est-il, Camille?
Ça va pas fort. Selon l'agence Reuters, le Naira a encore perdu de sa valeur, même après la récente dévaluation de la monnaie par le gouvernement. Et toute l'économie nigériane, c'est évident, se ressent de la chute précipitée des prix du pétrole.
Voilà pour la Minute Éco de ce vendredi. Bon week-end Camille Grosdidier. Merci. Nous passons tout de suite à la page sport, préparée et présentée ce soir par Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Et on commence avec la CAN 2015, la Coupe d'Afrique des Nations. Alain Giresse a publié une liste de 28 joueurs du Sénégal.
Oui, et sur cette liste, Giresse a retenu plusieurs joueurs n'ayant pas pris part aux qualifications, comme l'attaquant Henry Saïvé de Bordeaux, de retour à la compétition en club après plusieurs mois d'absence, et le défenseur Lamine Gassama de Lorient. En revanche, à la surprise générale, Issa Sissoko et Dembaba ont été mis de côté. Sur le cas Dembaba, on écoute notre confrère Abdoulaye Tcham à Dakar.
C'est dommage pour l'équipe nationale, c'est dommage pour le Sénégal, parce qu'après tout quand même, il a de l'expérience, il a du talent, quoi qu'on puisse dire. Il y a de jeunes loups aussi qui arrivent, mais tout cela restera dans le cadre de l'entraîneur. Peut-être qu'il va jouer sur l'expérience, peut-être qu'il va jouer sur la jeunesse. Et puis bon, l'avenir nous jugera. Personnellement, moi, j'aurais préféré tout simplement qu'il prenne un Diafara Sakho, parce que c'est l'avenir, parce qu'il est très bon. Et aussi, éventuellement, pour un second attaquant, qu'il prenne plutôt un Moussa Konaté à la place d'un Moussa Sow ou bien un Patrice Demba Tissi.
Voilà notre confrère Abdoulaye Tcham à Dakar.
Et puis ce vendredi, Bagassi, les yeux étaient tournés vers l'Angleterre.
Oui, c'était ce qu'on appelle là-bas hein, le Boxing Day, rien à voir avec la boxe. Et c'est Chelsea de Didier Drogba qui a frappé le premier avec un succès impressionnant sur West Ham 2-0 lors du premier match de la journée. Les Londoniens ont dominé le match à tous les niveaux. José Mourinho n'a lui toujours pas perdu lors d'un Boxing Day. 4 victoires, un match nul. City a battu West Bromwich 3-0 avec un but sur pénalty de Yaya Touré. Manchester United a assuré face à Newcastle à Old Trafford 3-1. Également 3-1 pour Southampton face à Crystal Palace. Et Tottenham, sixième de la Ligue, de la Premier League, pardon, a eu raison de Leicester 2-1.
Et le jour de Noël, c'était ici aux États-Unis. La fête du basket, 5 matchs dans la NBA?
Oui, ce que j'aime le plus, c'est ce qui vient là, Chérubin. Les San Antonio Spurs, champions en titre en plus, se sont inclinés 106 à 114 à domicile face à Oklahoma City. Merci les gars. Pourtant privé de sa star, Kevin Durant, New York a concédé sa 26e défaite de la saison dans sa salle face aux Washington Wizards, 102 à 91, soit plus qu'aucune autre équipe NBA. Carmelo Anthony a pourtant inscrit 34 points, mais les Knicks ont été malmenés par John Wall, auteur de 24 points. Face à son ancienne équipe de Miami, LeBron James et Cleveland se sont inclinés 101 à 91. Enfin, belle victoire de Chicago face aux Lakers de Los Angeles, 113 à 91.
C'est une époque de paix, Bagassi, faisons la paix. Je promets de ne pas dire du mal des étalons, si tu promets de ne pas dire du mal de San Antonio.
Mais il faut pas seulement faire la paix quand son équipe perd.
Merci Magassi Koura pour la page sport. À toi aussi, bon week-end.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorcy, là en votre compagnie pour cette édition du 26 décembre 2014, place au dossier du jour. En République centrafricaine, la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, a appelé à une journée nationale de prière pour la paix et la réconciliation à la veille du jour de l'an. Malgré des gains sur le plan sécuritaire et la perspective d'un dialogue politique entre tous les secteurs impliqués dans la crise, la situation en RCA reste inquiétante dans certaines zones. Réagissant à l'appel de la présidence, l'archevêque de Bangui a souligné la nécessité pour tous les Centrafricains de s'impliquer davantage dans le processus de réconciliation, la seule voie de salut pour la nation, dit-il. J'ai joint Mgr Dieudonné Nzapalainga suite à sa rencontre cette semaine avec divers groupes dont les Exeleka et les Anti-Balaka.
À chaque fois que tous les chrétiens doivent, ou bien les croyants doivent sourire et penser et prier, eh bien, je pense que c'est un espace important qu'on ouvre à Dieu pour qu'il puisse nous conseiller, pour que Dieu puisse être l'hôte de nos cœurs. Et moi, je pense que nous pouvons toujours accueillir cette comme initiative positive pour demander aux croyants, plus que jamais, le moment est venu, de se parler en vérité devant Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons aussi pardonner. Si nous aimons Dieu, nous devons aussi prendre la route de la réconciliation. Si nous aimons Dieu, nous devons aussi prendre la route de la justice. Et je pense que cette journée va être un moment d'examen de conscience, un moment de décision et au moment surtout pour une refondation d'une nouvelle République africaine. 2015 doit être une belle année où nous devons nous sentir comme des frères africains.
Vous êtes optimiste, Monseigneur, pour le processus de réconciliation?
En tant que croyant, je suis optimiste. Mais je sais bien que quand je suis optimiste, c'est pas tout le monde qui prêche ou qui marche dans la même dynamique. Mais je ne peux qu'annoncer l'espérance et je demande aux uns aux autres de se laisser gagner par l'espérance, de se laisser gagner par l'amour pour ne pas te laisser éloigner de la force de l'unité qui doit être notre dynamique. Maintenant, aux Centrafricains de devenir les artisans de paix. Mais on se dit croyant, on doit se revêtir des armes de la paix pour communiquer, dialoguer, ouvrir des espaces pour qu'il y ait la cohésion sociale, un espace de la tolérance. Et ce que nous attendons des Centrafricains qui viennent de fêter la fête de Noël, parce que le Noël, c'est la fête de la joie. Voici un enfant qui nous est né. Nous avons beaucoup d'enfants en Centrafrique depuis le début de l'année. Dans certains endroits de Centrafrique, les enfants n'ont pas repris l'école, ils sont dans la brousse. À nous de penser à tous ces enfants, offrir un avenir radieux, c'est-à-dire qu'il y ait une éducation, une formation plus tard pour que ces enfants puissent prendre la relève après nous. Mon message, c'est que tout adulte doit avoir la responsabilité de pouvoir aider les enfants, tôt ou tard, à devenir des véritables adultes.
L'archevêque Dieudonné Nzapalainga nous parlait de Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Depuis la mise en place du gouvernement de la transition au Burkina Faso, des manifestants contestent le choix de certains ministres ou personnalités de l'État. En cause, leur moralité ou leur capacité à diriger les institutions nationales. Ce fut le cas d'Adama Sagnon, on se le rappelle, il a démissionné 48 heures après avoir été nommé ministre de la Culture. Depuis plusieurs jours, des voix s'élèvent contre Mahamadou Compaoré, le directeur de la CAMEG, la centrale des médicaments génériques du Burkina, et aussi contre Moumouni Diegemde, le ministre des Transports et des Infrastructures. Pour en savoir plus, Bagassi Koura a joint Amidou Idogo, directeur des Échos du Faso.
Il y a des contestations, principalement au niveau du ministère. D'abord au ministère de la Communication, où Adama Sayan a été refusé par les artistes mobilisés qui ont pu obtenir dès le lendemain sa démission.
Quelle a été la réaction du gouvernement jusque-là?
Au tout début, le gouvernement a réagi avec promptitude parce que les travailleurs de la communication s'étaient mobilisés comme un seul homme, et puis dans la dynamique de l'insurrection, cela a porté fruit. Les travailleurs des infrastructures ne sont pas mobilisés comme ceux de la communication. Jusqu'à présent, le ministre Diguembe fait partie du gouvernement. Bon, pour la CAMEC, les travailleurs, pas plus tard qu'il y a 48 heures de cela, ont animé encore un point de presse pour réaffirmer leur volonté de ne pas accepter le nouveau DG à la tête de la CAMEC. Donc, chaque matin, ils font une sitting au niveau de l'institution. Ils font une sitting de 2 heures avant de commencer leur boulot.
Et comment réagit l'opinion? Est-ce que y a une certaine fatigue des manifestations? Les gens se disent que c'est un peu trop?
Bon, il y a une partie de l'opinion qui est contre cette manière de faire, parce qu'à cette allure, là, il va falloir installer totalement un conseil pour valider les candidatures. Parce que si on doit nommer quelqu'un pour être récusé à tout bout de champ, vraiment, ça devient exagéré. Il y a ceux-là qui comprennent aussi que c'est peut-être parce que le gouvernement ne connaît pas très bien les messieurs qu'il nomme dans ses fonctions. Sinon, le commun des Burkinabés, bon, comme on le dit, au Burkina, ici, nous sommes en pays de savane et tout le monde se connaît.
Amidou Idogo, directeur des Échos du Faso.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
L'année 2014 aura été difficile pour le groupe islamiste Al-Shabaab. En septembre, leur leader Ahmed Abdi Godane a été tué dans une frappe américaine. Et en octobre, l'armée somalienne et la MISOM, la force de l'Union africaine, ont repris le port stratégique de Barraoué, privant le groupe islamiste de près de 25 millions de dollars de revenus annuels. Les attentats et les attaques du groupe se poursuivent néanmoins, ainsi qu'on l'a vu hier à Mogadiscio. Alors, peut-on dire que le groupe islamiste est affaibli? Claire Morin-Gibourg a recueilli l'analyse de Roland Marchal, chercheur au CNRS.
C'est un mouvement qui est beaucoup plus présent dans le monde rural, donc a perdu l'essentiel des grandes villes du centre-sud de la Somalie, a également des problèmes logistiques importants dans la mesure où les ponts sur la rivière Chabelle sont pratiquement tous aujourd'hui contrôlés par les forces internationales. Et donc de ce point de vue-là, bon, on peut dire qu'il y a un affaiblissement. Maintenant, la question, malgré tout, n'est pas du tout réglée, dans la mesure où les affrontements se poursuivent d'un point de vue purement militaire, et que à l'intérieur des zones qui ont été libérées, donc essentiellement urbaines, on a un maintien, disons, d'activités terroristes qui est quand même tout à fait problématique. Mais ce qu'on voit aussi, c'est des incidents avec la population qui n'avaient pas lieu auparavant, dans la mesure où cette population, un peu revigorée par les victoires militaires des forces internationales, essaye de contester certains aspects de la politique ou de la présence de Shabaab parmi eux.
Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont affaiblis?
Si on veut faire un bilan, il faut aussi regarder la mort du leader historique et le fait que son remplaçant, qui est un de ses parents, finalement n'a pas réussi à faire ce qu'il entendait faire au début de son mandat, c'est-à-dire à réconcilier un peu ceux qui s'étaient éloignés, notamment au moment de la crise de juin 2013, faire libérer également les opposants qui avaient été arrêtés à ce moment-là et réunifier le mouvement, disons, dans sa forme historique. Ça n'a pas été possible, ce qui est un premier échec important du nouveau dirigeant qui a sans doute créé aussi pas mal d'état d'âme à l'intérieur du mouvement dans la mesure où il y a toujours une hésitation stratégique sur pourquoi on fait la guerre. C'est-à-dire, est-ce qu'on l'a fait simplement pour se battre? Est-ce qu'on l'a fait pour construire un État islamique? Bon, c'est une question qui a aujourd'hui encore plus d'importance parce que par rapport au modèle Al-Qaïda, bon, il y a le modèle de l'État islamique donc qu'on voit mis en place en Irak et un peu en Syrie. Et puis, vous avez également le rapport à la population, c'est-à-dire est-ce qu'on peut mener la guerre sans avoir un soutien forcément très important de la population, simplement comme un groupe clandestin qui mène des actions terroristes.
C'était Roland Marchal, chercheur au CNRS et spécialiste de la Somalie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Un tremblement de terre a ravagé le 26 décembre 2004 l'océan Indien. Le séisme était si puissant qu'il a fait bouger l'axe de la terre de quelques centimètres et a provoqué un tsunami dévastateur sur l'île de Sumatra. Une décennie après, l'Indonésie se souvient encore. Dans la province de Banda Aceh, même s'il y a peu de séquelles aujourd'hui, les cicatrices psychologiques persistent encore chez les survivants. Jean-Roger Bion.
De nombreux monuments, cimetières et sépultures sont visibles dans la province d'Aceh, point terrestre le plus proche du séisme marin de magnitude 9 qui a déclenché le tsunami. L'Indonésie a subi les dégâts les plus lourds parmi les 13 pays touchés par la catastrophe, qui a fait près de 250 000 morts, dont un tiers d'enfants, et fait près de 5 millions de sans-abri. Salmi Ardianti a perdu 23 parents, comme ce fut le cas pour des dizaines de milliers d'autres victimes. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés.
J'essaie de visiter chaque fosse commune à Banda Aceh afin de prier pour eux.
La femme de Samsul Bari, dont la maison est seulement à 20 mètres de la plage, a été l'une des premières à être emportée. Une ONG a reconstruit sa maison au même endroit.
D'accord,
je ne peux pas me permettre de vivre ailleurs. J'ai donc dû revenir ici, même si j'ai la peur au ventre.
À 3 km plus à l'intérieur se trouve un monument qui témoigne de la force du tsunami dans ce village détruit, un navire de 2700 tonnes, 69 mètres de long, 19 mètres de large qui produisait de l'électricité en mer. La deuxième vague du tsunami a déplacé le bateau à 5 km de sa position initiale, le plaçant au-dessus de deux maisons. Le destin a seulement épargné 60 des 400 élèves d'un lycée. Un jeune homme du nom de Souria fréquente maintenant cette école. Il avait 7 ans au moment de la catastrophe et a perdu 12 membres de sa famille. Trouvé avec une jambe cassée et d'autres blessures par les travailleurs humanitaires internationaux, Souria a ensuite été hospitalisé pendant un mois.
Où que nous allions, où nous nous asseyons, partout où nous courons, la mort viendra éventuellement. Par la grâce d'Allah, nous vivons et nous mourons.
Les organisations internationales et nationales ont inondé la province d'Aceh de travailleurs humanitaires et de milliards de dollars. Pendant un moment, la situation fut ingérable et certains organismes d'aide ont crié leur hola.
Il y avait plus de maisons neuves qu'il n'y avait de gens pour les habiter. Il y avait plus de bâtons et de filets que de pêcheurs.
Le directeur de Plan International, une ONG pour la prise en charge des enfants en Indonésie, recommande l'intégration de la réduction des risques dans le travail de développement pour éviter une répétition de ce scénario. Les scientifiques, eux, disent que l'histoire de Sumatra est jalonnée par des tsunamis destructeurs. Ils estiment donc que les populations côtières ici doivent toujours être préparées.
Et pour la page musicale, on accueille en studio ce soir le pilote lui-même, Roger Montou. C'est le pilote du RM Express, le seul avion qui peut faire le tour de l'Afrique en moins d'une heure.
Allez, Roger, on peut être dans quelques minutes. Salut Gabi, Noël est passé, c'est le week-end et on va zouker avec la chanteuse Ariel hein, pour bien préparer l'atterrissage de l'année 2015. Hein. On écoute bien sûr l'aveu.
Les paroles de cette chanson, c'est très profond, Roger.
Mais c'est très profond parce que, évidemment, hein, elle est en train de conseiller à tout le monde. Hein. Écoute, Gabi, on doit reconnaître avoir commis des actes blâmables en 2014, non ?
Bon, pas moi en tout cas. Moi, je suis complètement innocent de grands péchés.
Mais c'est un conseil gratuit. S'il n'y a pas de problème, on écoute.
L'aveu.
Choqué comme toi avec mon mec avant.
Alors, passagers, tenez-vous prêts. Le pilote est dans l'aéroport. C'est à 20h, temps universel, le RM Show. Merci, Roger.
Exactement, merci.
Cette édition a été mise en onde par Georges Léonard Sagnot, assisté à la console de Nashua Calais. Bonsoir, ici Dorsil.